طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم بنحاول نأخذ درسا فيما يتعلق بحديث أم الزرع حتى ننتهي منه. نريد أن ننتهي من هذا الحديث ومن سلسلتنا فيه حتى ندخل في كتاب آخر بإذن الله عز وجل. Donc exceptionnellement aujourd'hui on va, au lieu de prendre la biographie du prophète alayhi salatu wa salam et kitab tawhid, on va faire les cours qu'on aurait dû faire hier, en commençant par le livre de l'explication du hadith de Ummi Zara, pour la simple et bonne raison que on aimerait le terminer aujourd'hui. Comme ça on aura terminé inshallah cette série de cours propres à ce hadith. Et par la volonté d'Allah, Azza wa Jal, on pourra rentrer dès la semaine prochaine dans un autre livre. Bi'idnillah, Azza wa Jal. Tayyib. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa nu'id ma qad qara'na fi al-dars al-akhir hatta yahsul al-fahm. كما ينبغي بإذن الله عز وجل. قولها: فخرج من عندي أبو زرع والأوطاب تمخض. يحتمل أنها أرادت تبكير خروجه من منزلها وغدوه لذلك، لأنه وقت قيام الخدم والعبيد لأشغالهم ومهنهم. دونك on va relire les derniers paragraphes que nous avons lus du Sharh de Al-Qadi Iyad, lorsqu'on est arrivé sur la partie de ce hadith, la fin du hadith, lorsqu'elle dit ou qu'elle évoque qu'un jour Abu Zar est sorti de chez elle lorsque Mala au petit matin. Lorsqu'il est sorti de chez elle au petit matin. Dans cette partie du hadith, elle évoque précisément lorsque l'on bat les outres allaient, c'est-à-dire pour faire du beurre ou du semen. Donc là, le cheikh ou l'imam Al-Qadi Iyad, il explique qu'elle veut tout simplement dire qu'il est sorti à une heure très matinale, lorsque en général les ouvriers ou les employés de maison se lèvent pour accomplir leurs fonctions. وانطوى أثناء ذلك كثرة خير داره وغزر لبنه، وأن عندهم منه ما يشرب صريحا ومخيضا، ويفضل عن حاجتهم حتى يمخضوه في الأوطاب، ويستخرجوا زبدة وسمنة كما قالت في بداية الحديث. فنقلني إلى أهل صاهل وجامل ودائس ومنق. Et donc le cheikh il explique que cette partie-là du hadith nous montre encore à quel point elle se trouvait dans une situation d'aisance, puisque lorsqu'on parle de battre les outres à aller, ça signifie que elle vit dans une demeure où l'on boit le lait d'une manière pure, on le consomme directement, et où on peut se permettre aussi de le mettre de côté de telle sorte à ce qu'il devienne du beurre ou autre comme aliment consommable, yani en le laissant d'une certaine manière. Reposer, en le laissant reposer d'une certaine manière. Donc ça montre l'aisance dans laquelle vivait Ummu Zara auprès de Abu Zara. En conformité avec ce qu'elle nous a dit au début du hadith, lorsqu'elle dit qu'elle a été, elle est partie d'une famille d'une famille modeste, une famille de bergères, une famille où l'on s'occupait des moutons et des chèvres, pour rentrer dans une famille où il y a des chevaux, des chameaux et autres. قال ويحتمل أن تريد أنه خرج في استقبال الزمن وطيبه وربيعه ووقت يمخض الناس وأن خروجه إما لسفر أو غيره كان في هذا الزمن فتكون الفائدة في الاحتمال الأول تعريفها بخروجه عنها بكرة من النهار وفي الاحتمال الثاني إعلامها بوقت خروجه عنها في فصول الزمن. Il y a une autre possibilité au sujet de l'interprétation de cette partie du hadith, c'est qu'elle ait voulu dire tout simplement, ou elle ait voulu évoquer non pas la partie de la journée dans laquelle elle est sortie, dans laquelle il est sorti, mais plutôt l'époque, la saison dans laquelle cette sortie a eu lieu. Donc, si on prend la première interprétation, elle nous indique qu'il est sorti de chez elle de bonne heure, et la deuxième interprétation, elle nous indique la saison dans laquelle il est sorti. Tamam, et c'est le printemps ou l'automne. طيب. وقولها معها ولدان كالفهديين أو كالفهدين وفي رواية كالصقرين وصفت ولديها بالفهدين أو الصقرين لأسر خلقهما واكتناز أجسامهما واحتاجت إلى ذكر أو إلى ذكرهما ها هنا والله أعلم للتنبيه أن ذلك كان أحد أسباب تزويج أبي زرع لها. طيب. Donc ensuite, comme on avait lu la semaine dernière, donc il est sorti, il a rencontré une femme sur son chemin avec deux enfants. Ces deux enfants-là, ils étaient comparables à deux guépards, dans certaines versions, à deux faucons. C'est-à-dire, c'est une métaphore pour indiquer la grande beauté de ces enfants et madame. Le caractère plutôt attirant de ces deux enfants. Et donc le Hafiz, l'imam Al-Qadi Iyad, il dit que il y a là une indication subtile pour la raison, ou nous indiquant la raison pour laquelle Abu Zara a voulu se marier avec elle. C'est quoi cette raison-là, Yann Rouen? Ah, il m'a dit.
Ça veut dire qu'il était fécond, je crois.
Voilà. C'est-à-dire qu'il a vu d'elle qu'elle avait deux enfants. Donc lui, la première des choses, c'est qu'il lui a affilié ses deux enfants. Et il a pensé qu'elle était féconde par rapport à cela. Ça, c'est l'avis de Al-Qadi Iyad. Il pense que ceci a été évoqué pour indiquer la raison pour laquelle Abu Zara s'est penché vers cette femme-là. ثم قال لأن العرب كانت ترغب في الأولاد وتحرص على النسل وكثرة العدد وتستعد لذلك بنساء المنجبات في الخلق والخلق. Ensuite, il dit tout simplement parce que les Arabes ont toujours apprécié les enfants, le fait d'avoir beaucoup d'enfants. Et ils faisaient en sorte, ils faisaient leur possible pour avoir une grande descendance et avoir beaucoup d'enfants. Naam. Donc ils s'aidaient en cela par des femmes fécondes et des femmes de bon comportement, à la fois de bon comportement et d'une grande beauté. Ça, c'est les paroles du Qadi Iyad. فيحتمل أن أبا زرع لما رأى هذه المرأة وأعجبه خلقها وولداها لكمال خلقهما وظهور مخايل النجابة فيهما حرص عليها. Donc il dit, c'est peut-être pour cette raison lorsque il a vu de cette femme une grande beauté et en même temps qu'elle avait deux enfants pareils d'une beauté équivalente, c'est peut-être cette raison-là qui l'a poussé à se marier avec cette femme-là. وما سبب الطلاق؟ Et pourquoi il aurait divorcé alors au Muzara?
Pourquoi
il a divorcé de Musa?
C'est à cause de... il a épousé une autre femme. Il a épousé une autre femme. Et c'est à déceler que plus tard il divorce. C'est de cette histoire-là.
Yani, Abu Zar, lorsqu'il s'est marié avec cette femme-là, il a divorcé directement sa femme?
Non, il a pris une deuxième femme.
En fait, il l'a marié en deuxième épouse. Et après, qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a eu des problèmes. Il a décidé de
divorcer la première. Ahsante, Raya. Le sabab talaq Abi Zar'a li Umm Zar'a, أن هذه المرأة التي لقيها فأعجبته وتزوج يعني على أم زرع ألحت عليه في طلاق أم زرع. En fait, Abu Zar'a, quand il s'est marié avec cette nouvelle femme qu'il a rencontrée, il a marié en deuxième épouse. Tamam. Et c'est cette femme-là qui n'a eu de cesse de le pousser à ce qu'il divorce sa première épouse. Naam. Fakana Abu Zar'a yahwaha wa yuhibbuha akthar min mahabbatihi li Umm Zar'a fatallaqaha. Parce qu'ils disent, ceux qui rapportent, enfin les savants qui expliquent ce hadith, ils disent que Abu Zar'a, il était pris d'un amour supérieur pour sa deuxième épouse, et c'est ce qui l'a amené à la suivre dans sa directive et de divorcer sa première épouse. نعم. وجاء ذلك في رواية أبي معاوية بقوله فخطبها أبو زرع فزوجها فلم تزل به حتى طلق أم زرع. Et ça, c'est Al-Hafidh ibn Hajar qui l'évoque dans Fath al-Bari. Cette version-là, c'est Al-Hafidh ibn Hajar qui l'évoque dans Fath al-Bari. Et il dit qu'il y a une version de ce hadith, la version d'Abu Muawiyah, dans laquelle il est mentionné, il est stipulé qu'il l'a demandé en mariage, cette nouvelle femme. Puis, lorsqu'il s'est marié avec elle, elle n'a eu de cesse de le pousser jusqu'à ce qu'il divorce au Muzara. Donc ça, c'est Al-Hafidh ibn Hajar qui rapporte cette version dans Fath al-Bari. Taïf. Naam. Wa qala Ismail ibn Abi Uwais kalfahdain sarrain hasanain nafisain. Et dans d'autres versions, il est stipulé également que ces deux guépards étaient joyeux et d'une apparence excellente. Wanafisain, ma'ana, précieux. Donc tout ça, c'est des adjectifs qui montrent la grande beauté de ces deux enfants que tenait cette femme. Taïb. وقولها يلعبان من تحتها أو من تحت خصرها برمانتين. Et là, il y a une interprétation à faire sur cette partie-là. Lorsqu'elle dit que ces deux enfants jouer sur les flancs de leur mère, sur les, elle les portait sur, le, sur ses hanches, et qu'il jouait avec deux grenades. Les enfants jouaient tout ça. Ces deux enfants jouaient avec deux grenades en dessous de ses hanches. ذهب بعضهم إلى أن أنه أراد ثديها ثدييها ورد هذا أبو عبيد قال وليس هذا موضعه. Certains savants ont dit que ces deux grenades c'est une connotation sur la poitrine, qu'ils jouaient avec la poitrine de leur mère, c'est-à-dire les seins de leur mère. Soit elle leur donnait la tétée ou autre. Al-Muhim, Kanu yal'aban bihada. Ça, c'est l'interprétation de certains savants. Wa ba'duhum ankaru dhalik. Et d'autres savants ont dit que non, c'est pas le but visé. Le but visé, c'était que vraiment elle jouait avec deux grenades, le fruit. Deux grenades en dessous, sous ses hanches. Na'am. Bon, je vous passe l'explication de la divergence là-dessus, mais l'avis le plus juste, c'est qu'il s'agit bel et bien de sa poitrine et non pas de deux grenades. Parce que le fait qu'elle joue, enfin que ses enfants jouent avec elle en dessous de ses vêtements avec deux grenades, comment un homme il aurait pu voir ça? Comment un homme il aurait pu voir ça? Ou même qu'elle, elle reste dans cette position-là devant quelqu'un d'étranger. Or, le fait que ses enfants prennent le sein d'elle d'une manière discrète, c'est ce qui est le plus plausible. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Taïb. Al-Muhim. Wa qawluha wa kullu badalin a'war. Fahada mathalun. ومعناه أن البدل من الشيء لا يقوم مقام المبدل منه وأنه دونه وأنزل منه وأنزل منه. طيب. Donc ensuite, hein, elle va évoquer que il va la divorcer et elle va se remarier avec un autre homme. Et malgré que cet homme-là a de très belles caractéristiques, elle dira ce fameux proverbe que tout remplaçant est forcément borgne. C'est-à-dire que toute personne qui en remplace une autre aura des défauts plus grands que celle qui est remplacée. Voilà, comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois, ce n'est pas de manière absolue. Belle. Au contraire, le prophète alayhi salatu wassalam a marié des femmes divorcées et il était bien meilleur que leur précédent mari. Voilà, chaque fidèle. طيب. قال ووصفت هذا الرجل الذي تزوجته بالسؤدد في ذاته والساعة في ذات يده وأنه صاحب حرب وركوب وبالإحسان إليها والتفضل على أهلها ثم أخبرت أنه مع هذا كله لم يقع عنده أو عندها موقع أبي زرع وأن كثيره دون قليل أبي زرع فكيف بكثيره. Donc, lorsqu'elle va évoquer son nouveau mari, elle va évoquer de très belles caractéristiques. Comme quoi, il fait partie des nobles de son peuple. Il est également riche. Et il est extrêmement généreux. Elle dit également que c'est quelqu'un de courageux, quelqu'un... un guerrier et quelqu'un qui monte à cheval. En général, la noblesse et l'équitation, ça va ensemble, ça fait de pair. نعم. طيب. Donc elle l'a qualifié par ses qualificatifs extrêmement nobles et extrêmement valorisants, mais malgré tout, elle dit que malgré le bien qu'il a ce nouveau mari, il n'atteint pas un dixième de ce qu'était Abu Zar. Ça vous montre, ya ikhwan, le grand amour qu'avait Umm Zar li Abi Zar. Wal mahabba lamma takun qawiyya يعني تمحو كل شيء سوى المحبوب. Et l'amour, lorsque يعني c'est un sentiment, lorsqu'il est extrêmement fort, il efface tout ce que on peut voir d'une personne qui est moins aimée que la personne aimée. Enfin, là, c'est Umm Zar'a. Elle caractérise son nouveau mari par de nobles caractéristiques, malgré tout. Elle dit que le beaucoup, les grandes choses qu'il pouvait lui apporter, n'équivalent pas au peu qu'elle pouvait profiter de Abu Zar. وأن حال هذا الآخر عندها معيب إذا أضافته إلى حال أبي زرع. Et la situation de ce nouveau mari, pour elle, est déficiente lorsque elle la compare à la situation de أبو زرع. مع إساءة أبي زرع لها أخيرا في تطليقها. Et ce, malgré le tort que Abu Zar lui a fait lorsqu'il l'a divorcé. Subhanallah. والاستبدال بها. Lorsqu'il l'a divorcé et qu'il l'a remplacé par une autre. D'ailleurs, قد جاء أن أبا زرع ندم بعد ذلك على طلاقها. Hein, on l'avait déjà dit, on le répète encore une fois, que Abu Zar, il a regretté. Hein, il a regretté de l'avoir divorcé. Il a regretté d'avoir divorcé cette femme. Kayfala. Comment il ne regretterait pas alors que on constate le grand amour que cette femme-là avait pour lui. C'est-à-dire malgré qu'il l'ait divorcé, malgré qu'il l'a remplacé, malgré, regardez l'éloge qu'elle fait de lui. Et c'est un éloge qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu garder pour la communauté après des siècles et des siècles. On lit cet éloge-là, on lit cette reconnaissance, la reconnaissance de cette femme-là pour son mari jusqu'au jour d'aujourd'hui. Naam. Donc, ça aussi, c'est Al-Hafidh ibn Hajar qui évoque qu'il y a des versions du hadith où il y a une ishara ila anna Aba Zar' nadima ala talaqiha wa qala fi dhalika shi'ran. Il y a des certaines versions du hadith, comme l'évoque Ibn Hajar, qui montrent, qui indiquent que Abu Zar' il a regretté de l'avoir divorcé et que tellement le regret l'a pris, il en a fait des vers de poésie. Ça, c'est والعرب قديما إذا اشتكوا من شيء ألقوا شعرا. Et les Arabes de l'époque, ils avaient pour habitude, lorsqu'ils sont touchés par quelque chose, ou la siyama, surtout du côté sentimental, ils en font des vers de poésie.
Pourquoi il
n'a
pas remarié?
Pourquoi il n'a pas remarié? Très bonne question pour quelqu'un qui suit bien.
Que divorce?
Hein? Pourquoi il ne l'a pas remarié, quoi? Pourquoi il n'a pas remarié?
Il divorce d'abord, mais après il peut se remarier déjà.
Ah oui, elle m'a dit. Elle est mariée, là.
Mais elle ne peut pas demander le divorce pour parce
que...
Qu'est-ce que... Ça veut dire qu'elle est mariée, mais elle préfère son ex-mari.
Mais c'est... Qadar. Elle ne peut pas divorcer comme ça. Une fois qu'elle s'est mariée, khalas. Elle s'est mariée, même si elle a encore des sentiments. Ah ça, il se peut que ça parte. Hein, il se peut que ça parte, mais elle ne peut pas divorcer comme ça. Surtout encore plus que le mari avec lequel elle s'est mariée, il excelle avec elle. On a vu, il lui ramène de chaque bête, chaque gibier, chaque espèce, il lui ramène une part, pour elle et pour sa famille. Et il n'hésite pas à lui donner de sa richesse autant qu'elle veut. C'est juste que l'amour qu'elle a pour son, ou qu'elle avait pour son précédent mari a devancé toute chose. Donc elle est mariée, il ne peut pas la remarier. Et c'est pourquoi, c'est là la vraie hasara. C'est vrai, c'est pourquoi il a vraiment regretté. Parce que s'il peut remarier, ben, la baisse. Lakin, lorsque elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle aime. Et c'est pourquoi il y a un khwan, le talaq, thalath. Le fait de divorcer l'épouse trois fois. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Une fois, tu as divorcé ta femme trois fois, tu ne peux plus la récupérer. Il faut qu'elle se marie avec quelqu'un. Et Allah alam, hein. Si cet homme-là, il n'est pas meilleur que toi, ou il te met pas aux oubliettes. Hein? Voilà. Voilà. Ça veut dire, ça c'est vraiment pour vous dire. Omar ibn Khattab, lorsque les gens jouaient à son époque avec le talaq, il a compté ceux qui disaient anti talaq, anti talaq, anti talaq. Fidjal sawahida. Vous avez l'habitude de dire ça pour faire comprendre à la femme pour que là c'est grave. Et ça c'est pas un uslub, c'est pas une manière de faire quoi qu'il arrive. Et donc il le faisait souvent. Omar il a décidé que celui qui dit trois fois dans une même assise, c'est compté trois fois. Ça y est, il peut plus. En fait, il a voulu sanctionner les gens de son époque pour ne pas qu'ils jouent avec le divorce. Pour ne pas qu'ils jouent avec le divorce. Et c'est pourquoi ce récit-là, il nous pousse encore plus à dire combien il est important pour tout mari de préserver sa langue du divorce. Mahmakan. Au maximum. Al-Qulub Da'ifa. Les cœurs, ils sont faibles, Yahya Khan. Aujourd'hui, tu peux être sur une détermination, demain, tu regrettes. Et des fois, il y a des regrets que tu ne peux pas rattraper. Andoro, Abu Zara. Tout ce qu'il peut faire, c'est faire des vers de poésie. Pour dire sa tristesse. Lakin, Al-Mara'a Rahat. Et aussi, là, Yahya Khan, la femme qu'il a mariée. Lorsqu'on désigne sa poitrine comme étant des grenades, qu'est-ce que ça indique? Ça indique quoi?
Ça veut dire.
Aïwa, lorsque ils ont qualifié sa poitrine comme étant des grenades, c'est pour dire qu'elle est jeune. Parce qu'une femme âgée, forcément, sa poitrine se détériore à cause de l'âge. Et elle n'est pas aussi comparable à des grenades. Ça, c'est une explication aussi que les savants ont dit pour dire qu'elle était d'un jeune âge et féconde. Voilà.
Est-ce que le fait qu'on décrive la beauté des enfants aussi, ça n'indique pas aussi la beauté de l'enfant?
Hey, Ahsant. Et aussi la beauté de la femme est en lien avec la beauté des enfants, comme la beauté des enfants est en lien avec la beauté de la femme. Donc, Ahsant, Akhil Aziz, le fait qu'on évoque la grande beauté des enfants, ça indique implicitement, ça donne une indication sur la grande beauté de cette femme-là. Mais regardez, Yahya, beauté, jeunesse, comportement, comme c'est évoqué dans l'explication. Et malgré tout, il regrette Tilk. Il regrette sa première épouse avec qui peut-être il a eu beaucoup d'enfants. Ou en tout cas, on a les deux enfants qui sont évoqués dans le hadith. Peut-être qu'elle est âgée maintenant. Mais malgré tout, il la regrette. C'est dire, Juan, quand tu as une femme qui est chaste, qui ne te trompe pas, et qui est dans le din, hasbouk, ça te suffit. Même si des fois, elle peut avoir des comportements qui sont plus ou moins déplacé, des paroles plus hautes que d'autres. Yani, le fait qu'elle soit chaste et religieuse, ça doit te suffire pour ne pas en venir au divorce. Parce que ça, sinon, c'est du nadam, c'est des regrets. Wallah, ya ikhwan, al-nas yutalliqun bidoun fa'ida, bidoun dalil, bidoun shay. Aujourd'hui, les gens, malheureusement, ils divorcent pour des choses futiles, sans la moindre preuve du Coran ou de la Sunna qui indique cela. Là où il y a vraiment lieu de divorcer, c'est dans des grosses situations, comme la tromperie, comme le kufr. Mais s'il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de kufr, tadam. يعني الإنسان يصبر. Donc là c'est Abu Zar qui regrette Abu Zar. نعم. ها طيب. ولكن قال ولكن حبها له باخض إليها الناس بعده. Donc là القاضي عياض اللي ك malgré la bonne situation qu'avait ce nouvel époux, l'amour qu'elle avait pour Abu Zar'a l'a fait détester toute autre personne après lui. وَلِهَذَا كَرِهَا أُولُو الرَّأِي تَزْوِيجِ إِمْرَأَةٍ لَهَا زَوْجْ طَلَّقَهَا لِمَيْلِ نَفْسِهَا إِلِهِ. Donc là, il va évoquer une masala importante. Il dit, et c'est pourquoi les savants et les grands penseurs ont détesté le fait de marier une femme qui est divorcée. Hein, qui est divorcée tout simplement parce que elle aura facilement un penchant pour son ancien mari. وَقَالُوا لَا تَتَزَوَّجْ لا تتزوج حنانة ولا أنانة ولا منانة. Ils ont dit, ne vous mariez pas. Si vous devez vous marier, ne vous mariez pas avec la femme qu'on considère comme Hanana, celle qu'on considère comme Annana, ou celle qu'on considère comme Manana. ففي الحنانة وجهان. Celle qu'on considère comme Hanana, il y a deux interprétations. أحدهما التي لها زوج وهي التي تحن إليه. C'est celle qui avait un mari, qui est toujours en vie et qui penche encore vers lui. Ne pas la marier cette femme-là. تمام. والثاني الولد ممن قبلك. Et d'autres ils ont dit non, الحنانة c'est celle qui a un enfant d'un autre, de son précédent mari. فهي أيضا كثيرة الحنين إليه مشتغلة به عنك. Parce que cette femme-là également, elle aura forcément un penchant pour son ancien mari de par cet enfant. وهذا يا إخوان ليس على إطلاقه. Et ça, يا إخوان, bien sûr, ce n'est pas à prendre d'une manière absolue. Bien au contraire. Et même si la femme peut, il est vrai, avoir des restes de sentiments pour son ancien mari, c'est au nouveau de faire ses preuves et de faire oublier. Faire oublier à sa nouvelle épouse, son précédent mari. Formatage. Allah al-musta'an. Mais c'est vrai que c'est des situations qui peuvent être très difficiles, tant pour la femme que pour le mari. Je me rappelle d'une histoire qui a eu lieu quand j'étais au Yémen avec un frère. Allah il dit. Qu'Allah nous guide et le guide. Un frère, pourtant, il était âgé à cette période-là. Il avait peut-être 45 ans ou 50 ans. Un frère du Tadjikistan. Et il s'est marié avec une femme veuve. Une femme veuve. Dont le mari est décédé, comme vous le savez, au Yémen. Taïeb. Et malheureusement, lors de la nuit de noces, la femme elle a eu un blocage et elle s'est rappelée son ancien mari et le frère il l'a mal pris, il l'a très mal pris. Le lendemain il a divorcé. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais l'homme, il doit avoir une sagesse, une hikmah. Ça ne peut pas venir avec une femme qui a eu, je ne sais pas moi, 10 ans, 15 ans. Cette femme-là, elle a vécu 15 ans avec son mari. Et il est décédé en plus. C'est même pas, il l'a divorcé. Ça veut dire, les sentiments, ils devaient être encore plus forts. Il l'a décédé, c'est normal qu'elle ait des rappels comme ceci, ou des moments où, de tristesse, même si c'était pas le bon moment pour montrer cette tristesse-là. Mais ça arrive. Et le frère, peut-être, il s'est précipité, il a divorcé. Pourtant, c'est un talib ilm. Et là, il y a un point que je voudrais insister, Juan, fortement. Car on en discutait lorsque j'ai visité Akhouna Mounir. Dans les histoires de mariage, il ne faut pas se dire « Ah, mais lui, c'est un talib ilm, alors c'est bon. Il va exceller avec la femme. C'est bon. » Là, devant vous, là, on a des histoires de personnes différentes. On a des situations de personnes différentes. Est-ce que ces personnes-là sont, pour vous, des gens de science? Les gens qu'on a évoqués dans le hadith de Moussa. Hein? Ce sont des gens de science qu'on a évoqués, là? Dans le hadith de Moussa. Les femmes qui évoquent leur mari, je parle. Non, les femmes qui évoquent tout leur mari, là. Alors, lorsqu'on prend chaque mari à part, c'est pas forcément des gens de science. Ah ouais, plus des gens de la masse. Même lorsque tu regardes Abu Zar, c'est quelqu'un, il fait du khair, mais c'est pas, là on parle pas de ilm, on parle pas de quelqu'un ami. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de awam, il y a beaucoup de gens de la masse qui, dans les affaires maritales, ils sont bien meilleurs que des tolab al-ilm. En termes de compassion, en termes de patience avec la femme, en termes, il y en a, ils sont bien meilleurs que les toulab al-ilm. Ça ne veut pas dire qu'on dit que les awam sont meilleurs que les toulab al-ilm, là, hacha wakal, là. Mais c'est pour dire que il ne faut pas se laisser tromper et se dire, voilà, parce que c'est un talib al-ilm, khalas, forcément, il va exceller. Et l'autre, parce que c'est un ami, forcément, il va être mauvais avec la femme. Là, il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément autour de la science, mais qui ont un très très bon comportement avec leurs épouses. Hein? Comme nos parents, ou pour certains, ils ont un très très bon comportement, pourtant ils ont rien appris, ils ne sont pas partis chercher ça au Yémen, ou là, au Saoudi, ou là. Non, ils ont un très bon comportement. Tandis que des gens qui sont partis, ils ont fait talab al-ilm, ils reviennent chez eux, on dirait c'est l'armée. Voilà le mustahane. Donc là, il t'évoque de ne pas que les gens les sages évoquent en général qu'il est déconseillé de marier la femme qui a déjà été mariée, qui a été divorcée, ou celle qui a des enfants de son ex-mari. طيب وكذلك الأنانة الكثيرة الأمراض فهي تؤن أبدا فلا يصحو عيشك معها لذلك. Pareil, celle qui se plaint tout le temps de maladie. Faut pas la marier celle-là. وهذا يعني قد. Et ça, peut-être que ça a un caractère plus global. Même si tout le monde a sa part en islam. Yani, toute personne peut être mariée du moment que ce ne sont pas des défauts que la religion juge comme défauts. Mais si elle est malade, c'est le qadar. Mais c'est vrai que les sages et les savants disent vous préconisent de ne pas se marier avec la femme qui ne cesse d'être malade tout le temps. Parce que toi, quand tu te maries, tu veux trouver un apaisement. Tu veux trouver la quiétude. Tu ne veux pas trouver « amène-moi au mustachfa, la clinique, la pharmacie. » Tu ne veux pas trouver ça. Hein? Ça peut arriver de temps en temps, lakin, mais si c'est tout le temps, là, ce n'est plus un havre de paix, c'est un puits parmi les puits de l'enfer, là. Hein? Wallah al-Mustaan. Donc, Al-Annana ou Al-Mannana. Et Kadalik, elles disent aussi que Al-Mannana, c'est Allati laha malun tamunnu alayka bih. Et ne te marie pas avec Al-Mannana. Al-Mannana, c'est celle qui a de l'argent et qui, lorsqu'elle le dépense pour toi, elle te le fait savoir. Ah, mais je t'ai donné ça, je t'ai fait ça, je t'ai... ça aussi. Pour un homme, c'est très difficile. Pour un homme, c'est très difficile, en sachant que normalement, le asl, c'est que c'est l'homme qui ramène le risque à la maison. Et pas le contraire. Donc lorsque la femme fait don au mari, là, on contredit déjà l'asl. Mais ça peut se faire. Khadija, elle donnait en aumône au prophète, alayhi salatu wassalam. وزوجت عبد الله بن مسعود كذلك ça peut se faire mais si c'est pour comment dire faire du men comment on pourrait dire comment on pourrait traduire le men
pour le divulguer
ouais pour rappeler ces dons alors là ce n'est pas bon ce n'est pas bon hmm? De quoi des cadeaux ouais. Non, ahsant, parce que le prophète, sallam, il ne pouvait pas manger de la sadaqa. Ahsant, ahsant. Taïd. Qala, wa aradat bi qawliha hada kathratu ma a'taha min jami'i ma yaruh ila manziliha wa yara bi fana'iha min ibl wa baqar wa ghanam wa abid wa dawab وأنه أعطاها أصنافا من ذلك ولم يقتصر على الفرد في ذلك حتى ثناه وضعفه إحسانا إليها وتكرما عليها وأنه صاحب صيد وقنس يروح بها مثنى مثنى ويضيفها إلى ما اكتسب واقتنى. طيب. Ensuite là il évoque aussi à quel point ce nouveau mari était très très généreux avec Omuzara. C'est-à-dire qu'il lui offrait de chaque espèce qu'il chassait. Alors il pouvait lui offrir à la fois dans une même offrande un chameau, une vache, une madame, un chameau, une vache. وكذلك الغنم يا رحمة الله pareil il lui offrait des domestiques et il lui offrait d'autres choses parmi les différents cadeaux qu'il a pu lui faire et on voit aussi que cet homme là c'était un chasseur c'était كذلك صاحب قنص c'était le Franz, c'est quelqu'un qui. Hein? Qui visait bien, mais c'est. Il y a un mot. Habile avec son arc. Un sniper, on pourrait dire ça. Quelqu'un qui vise bien. Et tout ça, c'est des caractéristiques masculines extrêmement demandées. Extrêmement demandées hier. Ouais. Pour quelqu'un qui se marie, il faut regarder cela. Il faut que ça soit quelqu'un de courageux, quelqu'un qui n'est pas froid aux yeux et sahib harb wa silah. Parce que cet homme-là, il devra défendre quoi? Défendre sa femme, défendre ses enfants. Si c'est pas utilisé une arme, si c'est pas kif, sahib. Ça, c'est des caractéristiques là extrêmement louables. طيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع تطيبا لنفسها ومبالغة في حسن معاشرتها لما ذكرته أم زرع من حسن صحبته لها وشكرته في جماع حاله معها ثم استثنى من ذلك الأمر المكروه منه. طيب. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم quand il dit à Aïcha, je suis pour toi ce qu'était Abu Zar'a li Ummi Zar'a. Le prophète, quand il dit ça à Aïcha, c'est pour l'apaiser un tant soit peu et pour qu'elle n'ait pas de mauvaises pensées, pour pas que là elle entend une femme évoquer son mari, évoquer certains critères et certaines situations qu'elle a vécues avec lui, pour pas qu'elle ressente une quelconque différence d'avec la vie qu'elle mène avec le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je suis pour toi ce qu'est Abu Zar' li Ummi Zar'. Je suis pour toi ce qu'est Abu Zar' li Ummi Zar'. Et il a accepté, bien sûr, la chose que Abu Zar' a fait, qui est blâmable. C'est-à-dire, à l'exception d'une chose. C'est quoi là, cette chose, Aziz? Bah, je sais. Sahibna. C'est quoi la chose que... La seule chose, la seule et unique chose qu'on pourrait reprocher à Abu Zar?
D'avoir divorcé.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je suis pour toi. Comme était Abu Zar. Ali Abu Zar, à l'exception du fait que lui, il a divorcé, moi, je n'étais pas divorcé. Donc cette partie du hadith, elle nous montre que le divorce d'Abu Zar est blâmable. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, à l'exception du fait que moi, je n'étais pas... Lui, il a divorcé, moi, je n'étais pas divorcé. Vous voyez ? تتميما لتطيب نفسها وإكمالا لطمأنينة قلبها ورفعا للإبهام. طيب. Et là, il y a une question qui pourrait se poser, يا إخوان. Est-ce que le prophète, عليه الصلاة والسلام, il a dépensé pour Aïcha ce qu'a dépensé Abu Zar, les Ummi Zar? Hein?
Non.
Tu vas trop vite, Issa. Attends. Ah. Khaled. Non. Il n'a pas dépensé. Hassan, on n'a pas de hadith qui nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dépensé comme Abu Zar pour Aïcha. Mais bien plus. On a des hadiths, des versets même, où il est évoqué que, dans des hadiths où il est évoqué que les femmes du prophète, alayhi salatu wasalam, lorsque les conquêtes du prophète sont devenues fructueuses, elles ont demandé un petit rajout dans leur vie habituelle, un petit rajout d'aisance. Mais quelque chose de modeste. Malgré tout, lorsqu'elles ont demandé ça au prophète, alayhi salatu wasalam, le prophète, ça lui a fait mal. Ça l'a blessé. لأنه ما له علاقة بهذه الدنيا نهائيا. Imam al-Zahidin. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu wasalam, il n'a aucun lien avec ce bas monde. Mais aucun. Tu peux lui mettre la dunya dans une main, il va la dépenser dans la même minute, min awwalihi ila akhirih. Du début à sa fin, il va dépenser dans la même minute, sans jamais rien garder. Non. Le prophète, alayhi salatu wasalam, lorsqu'elle lui ont demandé, ça lui a donné du souci. Et tellement ça lui a donné du souci, qu'il les a littéralement hajar. Il s'est détourné de toutes ces femmes pendant un mois. Pourquoi? Parce qu'elles ont... وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ جَلِيَ وَالنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُنِدَنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ وَمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala a approuvé la décision du prophète alayhi salatu wasalam, en lui disant, ô prophète, dis à tes épouses, si c'est ce bas monde que vous voulez, alors venez à moi, je vous divorcerai d'une bonne manière, d'une bonne façon, et je vous donnerai ce que vous voulez de cette dunya. C'est-à-dire, dans le divorce, vous voulez tant, je vous donnerai tant. Wa in kuntunna tunidana Allaha wa rasulahu wad-dara al-akhirah fa inna Allaha a'adda lil-muhsinat. Mais si toutefois vous voulez le visage d'Allah ou la récompense d'Allah, hein, la rencontre d'Allah, et vous voulez dans un futur proche, c'est-à-dire dans l'au-delà, être avec le prophète alayhi salatu wassalam, et vous désirez la demeure dernière, alors sachez qu'Allah a préparé pour les excellentes parmi vous une grande récompense. Donc le prophète sallallahu alayhi wasallam, après avoir reçu ces versets-là, il est parti retrouver toutes ses épouses en leur proposant soit le divorce et la richesse, soit la vie modeste et le paradis avec lui. Il a commencé par qui? Aïcha. Il est parti voir Aïcha et il lui a proposé soit le divorce, soit le divorce et l'aisance, ou soit la patience face au moment difficile et le paradis en récompense de cela. Donc ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit je suis pour toi comme était Abu Zara, l'Umizara, ça ne veut pas dire dans cette dunya hier, quoi. Ça ne veut pas dire dans sa manière d'avoir été avec sa femme, c'est-à-dire dans les dons et dans l'aisance dans laquelle il l'a mis. Mais ça signifie que la compassion qu'il y avait entre les deux était la même qu'il y avait entre le prophète alayhi salatu wassalam et Aïcha. Et c'est ce qui est évoqué dans une autre version. Qala wa mithluhu qawluhu fi ar-riwayat al-ukhra fi al-ulfati wal-rafa la fi al-furqati wal-khala. Dans une autre version de ce même hadith, il dit je suis pour toi comme était Abu Zar et Ummu Zar en ce qui concerne l'entente et la compassion, et non pas en ce qui concerne la dissension et la séparation. وقول عائشة بأبي أنت وأمي بل أنت خير لي من أبي زرع. Et là, pareil, Juan, on peut s'affaire de la parole de Aïcha. Comment elle a répondu à la parole du prophète, alayhi salatu wassalam? Elle a surenchéri. Elle a dit, Bi abi anta wa ummi. Toi pour qui je donnerai mon père et mère en rançon. Tu es bien meilleur que Abu Zar pour moi. Tu es bien meilleur que Abu Zar. Pourtant, il n'est pas venu avec l'or, il n'est pas venu avec il n'est pas venu avec les safariyades, des voyages merveilleux ou autres. Hein? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il allait en voyage, est-ce qu'il partait avec ses épouses d'ailleurs? Ah, Manuji. Hussein? Le prophète, quand il partait en voyage, il ne partait pas avec ses épouses. Dis-moi, est-ce que le prophète, il partait en voyage?
Non, pas en voyage.
Voilà. Le prophète alayhi salatu wassalam, il n'y a pas dans sa vie des moments de repos où il va estarih, il va prendre un peu le chaud, un peu du chaud. Non, déjà le chaud, elle est à son époque ou dans son endroit, il le trouvait facilement. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, chaque voyage qu'il faisait, c'était nasratan l'islam, c'était pour secourir l'islam. Jihadan fi sabilillah. Hein? C'était pour secourir l'islam. Il n'y a pas de voyage mizah ou voyage siyahi, de tourisme. Ça ne veut pas dire que je dis que c'est interdit, mais c'est la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Tu vois? Et est-ce qu'il prenait ses épouses? Oui. Naam. Il prenait ses épouses. Il les choisissait comment? Par tirage au sort. Naam. Donc, elle voyageait avec lui, mais c'était des voyages tendus. Ma fille, tel que Dala, il n'y avait pas de... C'est pas une détente comme on pourrait le penser. C'est une vie dure. Malgré tout, regardez ce que Aïcha dit. Pourquoi il y a Yahya? Parce que comme il a dit Isa, le mari qui apporte du iman, il apporte à son épouse le khair de cette dunya ou ma fille. Il n'y a pas meilleur ikhwan que l'iman. Ça veut dire que celui qui vient, il n'a pas l'aisance qu'avait Abu Zar, mais il a l'iman. Il a, yani, chez min al-ilm ou chez من الصلاح تستفيد منه امرأته الى الى certain caractéristiques de piété qui déteignent sur l'épouse. Ça, c'est mieux encore que le fait de dépenser pour elle dans les bijoux, dans, même si c'est bon de dépenser pour elle dans les bijoux ou autres. Laquelle, le fait de lui enseigner la religion, le fait de la motiver dans la prière, dans la salade, le fait de s'accrocher, ça, c'est le paradis, ça. Ce que tu lui proposes, là, c'est... C'est une chose qui ne peut pas s'échanger. C'est le paradis. Donc c'est pourquoi Aïcha, et regardez aussi le remerciement d'Aïcha pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, certes, il a parlé d'une bonne parole, mais elle, elle a surenchéri. Elle a dit, mais non, bien au contraire, tu es bien meilleur pour moi que Abu Zar. Et tout homme, il a besoin de voir de son épouse qu'elle est reconnaissante. Tout homme, il a besoin de voir de son épouse qu'elle est reconnaissante envers ses bienfaits, même s'ils sont peu nombreux. Et la femme, lorsqu'elle est reconnaissante envers son mari, elle gagne le paradis. Hein? Comme la femme, le prophète, elle lui dit, elle vient pour poser une question au prophète, alayhi salatu wassalam, et le prophète, il lui répond à sa question, ensuite il lui dit, adatu ba'li anti, adatu ba'lin anti, est-ce que tu es une femme mariée? Elle a répondu, na'am. Et il lui a demandé, comment tu es avec ton mari? Elle a répondu, mon mari, je suis avec lui de telle sorte qu'il ne manque de rien avec moi, sauf dans ce que je ne peux pas accomplir ou je n'ai pas la capacité. Est-ce qu'il y a une meilleure réponse, Yerkhan? Il n'y a pas une meilleure réponse. Là, elle a tout dit, bi'ikhtisar. Mais malgré tout, le prophète, sallam, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Wayhaki, anzuri aina anti minhu. Malheur à toi. Mais fais bien attention à veiller ou à surveiller comment lui te considère-t-il. فَإِنَّهُ جَنَّتُكَ أَوْ نَارُكَ. Car en vérité, c'est ton paradis ou ton enfer. C'est ton paradis ou ton enfer. Le mari, ça peut être une cause. Parce que la femme, la première des choses sur laquelle elle va être questionnée, après sa salat, c'est quoi, Yerkhan? Le comportement avec son mari, Yerkhan. Le comportement avec son mari. Ça veut dire que lorsqu'elle a un mari qui la pousse, qui le khair, dans les bonnes œuvres ou autres, c'est bien meilleur pour elle qu'un mari qui se contente seulement de lui donner ce côté mondain, de lui donner ce côté de cette dunya. On termine, Yerkhan.
C'est que là, si le prophète, c'était l'exemple.
Ouais.
On ne peut pas faire meilleur que lui.
Ouais.
Donc s'il nous
rapporte
lui-même, il est bien fait. Dans tous les cas, même si
je me ramène
bien, ça sera
toujours pas mieux que... Oui, le prophète, on ne pourra pas faire mieux que lui avec ses épouses, dans le comportement. Même si on vient avec une aisance financière, plus le iman. Parce que l'iman que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené à la maison, c'est un...
Personne là.
Très yalo, Yahya Khouan, il est au lit avec sa femme. Hein? Ça sous-entend ce que ça sous-entend. Et Jibril, il vient. Il n'y a qu'une seule femme chez qui Jibril, il est entré comme ça. Et il la trouve dans cette situation-là. Il n'y a qu'une seule femme. Mais Jibril, il vient. C'est quel iman que ça ramène dans la maison, ou du moins chez l'épouse? C'est qui cette femme-là? Zeynep. Aziz. C'est qui la femme chez qui Jibril pouvait venir alors qu'elle se trouvait au lit avec le prophète, alayhi salatu wassalam? Aïcha. Tamam. Aïcha. Donc c'est clair que une personne qui vit une telle situation de foi, c'est incomparable avec ce que nous aujourd'hui on pourrait faire vivre à nos épouses, même si on a tout l'ilm du monde. Alors même si tu rajoutes le côté mondain. Na'am. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il est inégalable en termes de dans tous les sujets qu'il traite sur le comportement ou autre.
Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas payé au rendement, on est payé à l'effort. Il faut s'efforcer en quelque sorte pour se
rapprocher. Non, il faut s'efforcer, Yahya. Tout cela, ce qu'on lit là, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on a lu de ce très beau hadith, c'est pour nous montrer déjà à quel point on est faible. Les hommes d'aujourd'hui, combien on est faible. Ça, c'est des gens, ils ont vécu il y a plus de 1000 ans. Ils avaient ce comportement-là, du moins pour les hommes qui ont été loués, ils avaient des nobles comportements avec leurs épouses. Et. Hein ?
Leurs épouses aussi avaient des nobles comportements.
Ah, et leurs épouses aussi avaient des nobles comportements. Ça aussi, c'est à retenir. C'est à retenir. J'étais avec un frère, là, fil Maghreb, et il me disait que bon nombre de awam, bon nombre de gens qui ne sont pas affiliés à la science, des gens normaux, qui ne sont pas tous les jours dans la mosquée, qui n'apprennent pas tous les jours le Coran ou quoi que ce soit, ces gens-là, des fois, ils sont bien meilleurs dans les affaires de mariage que des gens qui sont d'apparence religieux. Ils sont bien meilleurs. Tu les vois qui patientent, tu les vois qui sont généreux, tu les vois qui sont courageux avec leurs femmes. Et tu peux tomber sur des gens qui sont affiliés à la science ou autre, et malheureusement, ils se comportent mal avec leur épouse. Et lorsqu'il me dit ça, il me dit... Moi, mon père, par exemple, c'est un ami, mais, mashallah, il a un comportement incroyable avec ma mère. Et ensuite, il me dit, et ma mère également. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, à son vieil âge, elle lui fait toujours un bisou sur la main. Et, khwan, ech min dala, ou ech min, yani, makrama. C'est quel comportement d'une femme qui est peut-être âgée, avec un homme qui est peut-être aussi âgé. À chaque fois qu'elle le rencontre à la maison, là, elle lui fait un bisou sur la main. Nous, on est jeunes, on a même pas le quart, le dixième. C'est pourquoi on étudie, nous. On a besoin du ilm pour s'améliorer. Et ce hadith-là, comme je le répète, c'est un asl. C'est vraiment une base dans les affaires maritales pour exceller. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, a terminé ce hadith en disant qu'il était pour Aïcha, qu'il était pour Aïcha comme l'était Umuzara. Donc là, dans ce hadith, Bertissar, on a vu combien il est important de cohabiter avec l'épouse d'une excellente cohabitation. On a vu également combien il est important que le mari puisse avoir des moments de détente avec son épouse et des plaisanteries. La plaisanterie, c'est yajouz et ikhwan. C'est permis. À quel moment la plaisanterie, elle devient interdite, c'est ikhwan ? Lorsqu'il y a du mensonge. On ne doit pas mentir, même pour faire rigoler la personne. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plaisantait avec ses épouses, il jouait avec elles, sans jamais tomber dans le mensonge. Mais toujours en respectant la législation. Pareil, on voit combien il est important d'être courageux. Quand on est marié, il faut être un homme. Il faut être un homme. Hein? Les caractéristiques qu'on a vues, parmi les caractéristiques qui se sont le plus répétées, il y a celle-ci, le courage. Et là, on est dans une situation, peut-être elle est basite. Hein? Peut-être on est dans une situation de vie, c'est facile, on a des aides, on a ceci, on a cela. On peut penser de nos propres personnes qu'on est courageux. Mais demain, il se peut que tout part. Il se peut que tout part. Et lorsque yani, l'âme tarouh, c'est là qu'il faut être un rajul. Lorsqu'il n'y a plus de sécurité dans la ville ou autre, c'est là qu'il faut être un homme. Et qu'il faut défendre son foyer comme il se doit. Naam. C'est pourquoi les musulmans n'ont eu de cesse d'éduquer leurs enfants à la shaja'a, sur le courage. Depuis qu'ils sont petits, ils leur enseignent. Même le fait d'enseigner à ses enfants le fait de savoir se défendre, c'est important. C'est important. Cheikh Yahya Khan Yaqoul, allez-moi au lada comme apprenez à vos enfants le karaté, le judo, là, ou des trucs. Ça va leur servir s'ils doivent se défendre. Ah, mais tu veux lui apprendre le football, il va apprendre à quoi? À courir. À se sauver. Allah al-musta'an. Allah al-musta'an. Alors, à la kulli hal, on va terminer avec ce hadith-là. Le temps, il est déjà bien passé. On va terminer avec ce hadith-là. Donc, Inch'Allah, c'était le dernier cours de, concernant ou portant sur ce hadith, le hadith de Umm Zara'i, qui est un très beau hadith. Nous, on a fait juste... on n'a pas lu le charh en entier. On a fait un bref résumé. Et Inch'Allah, pour le cours prochain, parce que vous savez que, en fait, dans les cours du samedi, on réserve un cours plus tourné vers les sœurs. Donc c'est pourquoi on a fait ce livre-là, bien que c'est un cours qui est profitable pour les hommes comme pour les femmes. Et là, pour la semaine prochaine, on va sans doute faire ce livre-là, le rôle de la femme dans l'éducation du foyer. دور المرأة في تربية الأسرة للشيخ الفوزان. C'est un livre de Cheikh Al-Fawzan qui évoque l'importance de la femme au foyer. Et Mada, donc là vous voyez, c'est un livre, il est déjà traduit en français. Moi je le lirai en arabe. Un frère qui voudra bien lire en français, il nous le lira et on annotera sur les passages les plus importants. Donc je pense qu'on va faire ce livre-là. Je n'ai pas encore fait Sikhara, mais je pense qu'on va faire ce livre-là le samedi avant le cours sur péché et guérison en remplacement de le livre sur Sharh Umm Zara'i. Taïb, est-ce qu'il y a des questions hier, quoi ? Ça va te donner. C'est pas à toi de juger. Ah.
C'est par rapport à une conversation avec d'autres frères. En fait, il y a des mosquées qui font deux Jumara. Par exemple, il y a quelqu'un, il travaille. Il ne peut pas faire le premier Jumara, il veut faire le deuxième. Est-ce qu'il doit continuer à travailler ou est-ce qu'il doit suivre le premier Jumara en fait? Ou il peut attendre le deuxième et puis il laisse son travail et il y va. Est-ce qu'il rentre quand même dans le contexte de Jumara en fait?
La mas'ala, est-ce qu'il est permis de faire deux Jumu'a dans une mosquée? As-sawab annahu la. Est-ce qu'il est permis de faire deux Jumu'a dans une mosquée? La vie le plus juste, même si les savants ont divergé, c'est que c'est pas permis. Tamam? C'est que c'est pas permis. Lakin, pour celui qui travaille, et qui n'a pas d'autre solution, lui il craint Allah autant qu'il peut et il profite de l'opportunité qu'il a pour pouvoir accomplir un Jumu'a, hein, et sans être pénalisé au niveau de son travail. Ma fi bas.
Si c'est pas permis, la personne elle délaisse le...
C'est pas permis pour les ashab al-masjid, pour ceux qui organisent ça. Mais le Moussali, il n'est pas plus cher.
Et c'est pas mieux qu'il choisisse le premier. Parce qu'en bas, il dit à Yuala Dinam, il va nous dire les salats et les Mujuma. Ils vont pas faire deux Midas.
Taïb, là, je te repose la même question. Si dans une mosquée, il prie plus tard, mais un Jumu'a, la Houdalik ?
Oui, la Houdalik, oui.
Khalas. Yani, laisse ma'na, yani, أوقات الصلاة لها يعني مدة les temps des prières, elles ont un temps. Ça veut dire que toi, en fonction de tes capacités ou ta possibilité, tu, du moment que tu restes dans le temps, la baisse. فَتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Il faut faciliter aux gens et pas rendre la tâche dure. Là, on parle d'une manière globale.
Ah. Mais ça, c'est ma question. Mais c'est dire, dans l'idéal, ça aurait été mieux que ce masjid-là, il retarde, par exemple, le Jumu'a et en faire un seul.
Ouais, dans l'idéal, ouais, c'est ça. Dans l'idéal, ce serait qu'il retarde.
Il doit accueillir tout le monde. Et là, ils ont des petites salles.
S'il n'a pas la place d'accueillir... En fait, ouais, mais tout ça, ça reviendra aux paroles des ulama. Si les ulama ils disent c'est une bid'a ou c'est une... يعني أنا ما أتقدم أمامه فهمت؟ لا pas d'autres questions. خلاص يا اخوان ان شاء الله le prochain درس تاع الاخ samedi prochain et sûrement on fera ce livre là inchallah نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك